Chapitre 63. En silence, Traskman observait la nuit à travers la fenêtre aux allures de hublot. Les formes douces des dunes se dessinaient à chaque balayage du faisceau du phare. Après la mort de mon père, je voulais comprendre l'agencement de cette maison. On a beau s'y aventurer des centaines de fois, son architecture exacte reste une énigme. Eh bien, je n'ai jamais réussi à mettre la main sur ses plans. Il n'y a de traces des documents nulle part. J'ai même tenté de remonter à l'architecte, mais il était parti vivre à New York et n'a pas répondu à mes demandes. À mon avis, il avait reçu comme consigne de ne pas parler, et s'était arrangé pour faire disparaître l'ensemble des documents. Jean-Luc Traskman enfonça une cigarette légère et fine au bout d'un porte-cigarette et l'alluma. Une timide odeur de tabac anglais se répandit autour d'eux. Alors j'ai fait venir mon propre architecte ainsi que son maîtreur. Ça a pris des semaines de référencer les 200 mètres de couloir et les 444 portes. Ici, au rez-de-chaussée, la bâtisse ne compte qu'un salon, une cuisine, des toilettes et ce bureau, pour une surface totale de seulement 65 mètres carrés. Un espace ridicule quand on voit la taille de la demeure. Mon père avait supprimé toutes les autres pièces d'origine, muré la plupart des fenêtres, pour occuper l'espace avec cette espèce de labyrinthe. Et si toutes les portes sont identiques, seules 44 ouvrent sur d'autres couloirs ou l'une des quatre pièces. Les chiffres donnaient le tournis et confortaient l'image que Paul avait de Traskman, un être perturbé, dangereux, dont la logique lui échappait. Mais là n'était pas le plus troublant. La maison n'a qu'un seul étage. Elle ne possède ni cave ni grenier. Sa surface au sol, mesurée à l'extérieur, est de 208 mètres carrés précisément. En essayant de faire le calcul de l'intérieur, en tenant compte de l'épaisseur des murs, des cloisons, on obtient effectivement une surface de 208 mètres carrés pour l'étage. C'est cohérent. Par contre ici, au rez-de-chaussée, la surface n'est que de 189 mètres carrés. Les spécialistes ont refait leurs mesures et leurs calculs plusieurs fois. Il manquait bel et bien 19 mètres carrés. Le faisceau blanc balaya le visage de Paul, révélant deux poches d'encre sous ses yeux. « Comment vous l'expliquez ?» Sans lui répondre, Traskman l'invita à le suivre. Ils s'enfoncèrent dans les profondeurs de l'étrange habitation aux murs graffités, aux couloirs alambiqués qui viraient à gauche, à droite, les ramenaient sur leurs pas. La voix de Traskman résonnait au milieu de tout ça et, parfois, Paul le perdait de vue. « Mon père a toujours été très prolifique. Jusqu'à sa mort, il avait publié 16 romans, d'innombrables nouvelles, et avait été scénariste sur des dizaines de projets pour la télé. Il n'a jamais autant écrit que sur la fin. Des livres de plus en plus complexes, de plus en plus gros, comme s'il avait un besoin de créer sans relâche. Certains, avec cet excès de création, s'épanouissent. D'autres, au contraire, tombent dans les abysses parce que leur art les étouffe, les possède, les anéantit. Ça a été son cas. Savez-vous qu'il y a 3 fois plus de suicides que la moyenne chez les artistes? Explosions en plein vol, déchirures intérieures? Ils boivent, se droguent, détruisent leur famille, commettent des atrocités sur eux-mêmes et sur autrui. Comme beaucoup, mon père a basculé jusqu'à sauter la vie. Je ne vous raconte pas la tête des flics qui ont mené leur enquête de routine lorsqu'ils sont entrés dans la villa. À un moment, il sembla lui-même perdu, exécuta un demi-tour et emprunta un autre chemin. Il s'arrêta enfin devant une porte, l'ouvrit pour dévoiler une peinture sinistre. La réplique exacte du xyphopage dessiné dans le carnet de Julie. Il frappa du poing à 2 endroits différents du mur. « Vous entendez la différence ?» demanda Traskman. « Ça sonne creux, » constata Paul. « Un passage ?»« Un passage secret. Le seul de toute la maison. » Jean-Luc Traskman inséra son index dans l'œil gauche de l'être au visage mauvais. Après un léger déclic, la cloison s'écarta, déclenchant par la même occasion l'allumage d'une ampoule. L'espace se révélait très étroit, à peine 40 cm de large, et les murs n'étaient pas parallèles, mais se rapprochaient au fil de leur progression. 3 mètres plus loin, une clé pendait à un crochet dans le mur. Traskman la glissa dans la serrure d'un lourd battant en bois. Ils atterrirent dans une salle unique en forme de T, genre de pièce de Tetris habilement incrustée dans l'architecture générale de l'habitation. Les parois étaient intégralement tapissées d'une mousse noire alvéolée insonorisante. Un vrai petit lieu de vie, esprit loft cosy, composé d'un coin chambre, d'un espace salle de bain, d'un salon avec un fauteuil, un téléviseur, une bibliothèque fournie. Dans le coin cuisine, des corbeilles vides, rien pour cuire ou chauffer, mais un réfrigérateur débranché. Paul tourna sur lui-même, abasourdi. Il éprouva le besoin de s'appuyer quelque part. « Julie était enfermée ici, » souffla-t-il. Sur une table, un jeu d'échecs et une partie entamée. Jean-Luc Traskman croisa les bras, soudain frigorifié lui aussi. « Mon architecte était là quand nous avons découvert ce lieu. Je n'ai touché à rien depuis. Le réfrigérateur était vide, le lit fait et comme neuf. Aucun objet, aucune griffure sur les murs ne laissait imaginer que quelqu'un ait pu être retenu ici. » Il affronta Paul d'un regard franc et soutenu, histoire de montrer son honnêteté. Cet endroit pouvait très bien être un délire de mon père sans aucune utilité, ou peut-être s'y cloisonnait-il lui-même. Peut-être était-ce sa manière de s'isoler, de se couper totalement du monde des vivants. Le Minotaure au milieu de son labyrinthe, si vous voulez. Il désigna le jeu d'échecs. Et puis, rien n'empêche personne de jouer contre soi-même. Les blancs contre les noirs, le bien contre le mal. Le xyphopage. Sur ces mots, comme soudainement épuisé, il s'assit sur le fauteuil, déroula les feuilles qu'il n'avait pas lâchées jusque-là et y plongea les yeux. Paul laissa le silence les ensevelir, scruta la pièce avec attention. Une quinzaine de mètres carrés, sans fenêtre, sans possibilité de fuite, sans espoir. Il osa à peine imaginer ce qu'avait dû être la vie de Julie entre ces murs. Combien de temps Caleb Traskman l'avait-il gardée auprès de lui dans ce dédale maléfique? Avait-elle été seule ou en compagnie de Mathilde? Avait-elle seulement revu la lumière du jour, senti l'odeur de la mer? Et toujours l'éternelle question, où était-elle à présent? Heureusement que Gabriel n'était pas là parce que ce dernier serait devenu fou et se serait probablement jeté sur le fils pour l'étrangler. Paul se tourna néanmoins vers celui-ci avec une rage à peine contenue. « Vous auriez dû en parler à la police. Vous auriez dû leur donner les lettres de menace. Ils auraient réalisé des prélèvements ADN qui auraient sûrement levé une alerte dans les fichiers et permis de faire un recoupement avec notre affaire. À la place, vous avez préféré vous taire. De peur de ce qu'on aurait pu découvrir. Mais je comprends, les livres de votre père se vendent encore. Et beaucoup plus que les vôtres. Vous ne l'aimez pas, mais vous aimez l'argent qu'il rapporte. » Jean-Luc Traskman fixa l'échiquier. D'un geste mécanique, il joua un coup. Puis il ne bougea plus, la tête entre les mains. « Que va-t-il se passer maintenant ? On va faire ce qui aurait dû être fait dès le début. Vous posez toutes les questions nécessaires et perquisitionnez cette maison de fous. Au moins une jeune femme a été séquestrée ici. Elle est quelque part, certainement morte depuis longtemps. Et s'il faut aller jusqu'à raser cette baraque pour retrouver son cadavre, je vous garantis qu'on le fera. »